Plusieurs villes belges se veulent antifascistes. La dernière ville en date à faire passer une motion à ce sujet est la ville de Mons. Qu'est-ce qu'une ville antifasciste? C'est une des questions que Blaise van der Linden a posées à Benjamin Billard. Il est politologue au CRISP et on écoute donc les questions, mais surtout les réponses de Benjamin Billard.
Benjamin Billard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue au CRISP. Les associations et le monde culturel à Mons se sont rassemblés pour dénoncer les attaques régulières dont ils sont la cible ces derniers mois de la part de groupes d'extrême droite. Ils ont proposé que Mons devienne une ville antifasciste. Alors, pour commencer, Benjamin Billard, que veut dire une ville antifasciste ?
Alors, une ville antifasciste, c'est une expression en tout cas qu'on retrouve de plus en plus au niveau de certaines localités. C'est en réalité, ça traduit l'adoption par ces différentes villes d'une motion, c'est-à-dire une déclaration écrite, par laquelle les autorités communales s'engagent à lutter contre les organisations d'extrême droite et la circulation des idées d'extrême droite. Alors ça ne veut pas dire qu'elles décident d'interdire purement et simplement ces organisations, elles n'en ont évidemment pas le pouvoir, mais elles prennent toute une série d'engagements. Ça va au fait d'empêcher par tous les moyens légaux la diffusion de propos incitant à la haine, au racisme, à l'antisémitisme, à la xénophobie, au sexisme également, par exemple, sur le territoire de la commune. Ça va l'invitation qui est faite au bourgmestre et aux services compétents de prendre un arrêté autorisant ou, et c'est surtout cela qui intéresse pour le coup les antifascistes, interdisant l'événement que souhaitent organiser certains partis ou mouvements d'extrême droite, par exemple. Donc on voit finalement toute une série d'engagements par lesquels la commune, finalement, réitère sa volonté ou indique tout simplement sa volonté de s'opposer à l'extrême droite.
C'est quelque chose qui existe déjà en Belgique ?
Alors, effectivement, on a pu voir déjà par le passé des motions de cette nature adoptées, particulièrement une qui était assez bien visibilisée le 9 mars 2023, donc de cette année, il y a quelques mois désormais, à Charleroi, où effectivement le Conseil communal a voté assez largement d'ailleurs, à la quasi-unanimité, avec 42 voix pour et 3 abstentions, en faveur d'une motion dite antifasciste, pour une ville antifasciste, déposée par le collectif antifasciste de Charleroi. Donc effectivement, c'est une réalité qui a déjà eu lieu, qui a déjà vu le jour à Charleroi, et qui très rapidement s'est concrétisée par l'adoption par le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette, d'un arrêté de police qui interdisait le rassemblement d'un parti d'extrême droite, en l'occurrence du parti chez nous, sur son territoire.
On parle de Charleroi, de Mons, peut-être de Liège. C'est un concept qui, pour l'instant, touche uniquement le Brabant wallon, enfin la Wallonie plutôt.
Alors, effectivement, on retrouve cela essentiellement dans le Hainaut et en province de Liège. Je dirais que c'est lié tout simplement aux velléités de développement de l'extrême droite et particulièrement ce qui est visé ici, même si ce n'est pas le seul parti, c'est le nouveau parti d'extrême droite chez nous, pour reprendre le nom de cette organisation, petite organisation qui a vu le jour en 2021 et qui a des ambitions électorales dans la perspective des élections qui, rappelons-le, se dérouleront à tous les niveaux, à tous les échelons de pouvoir en 2024, qui espère pouvoir décoller sur la base d'un terreau qui d'ailleurs est particulièrement présent. Et la stratégie de cette formation politique, c'est de tenter de se développer particulièrement dans le Hainaut ou en province de Liège, où le terreau est d'autant plus favorable à ce type de formation politique.
Pourtant, historiquement, ça n'est pas le cas.
En tout cas, ce qu'on peut observer, c'est une différence, une situation assez contrastée entre ce qui se passe en Flandre et ailleurs en Belgique, que ce soit francophone ou germanophone d'ailleurs, où l'extrême droite, effectivement, peine à se développer. Néanmoins, ce qu'on a pu observer, puisqu'il y a quand même des partis d'extrême droite, il y a déjà eu des mandataires d'extrême droite à différents niveaux par le passé du côté francophone du pays, singulièrement avec le Front National. Pensons aussi à une scission qui était le Front Nouveau de Belgique, porté par Marguerite Bastien à la fin des années 90, ou encore aux listes du Parti Populaire, par exemple, poussées par Michel Modricamen. Et clairement, on a pu observer que le Hainaut et la province de Liège étaient globalement, en comparaison aux autres circonscriptions du côté francophone du pays, des circonscriptions où il était possible de se développer davantage que, par exemple, dans la province de Brabant-Wallon ou dans celle de Luxembourg.
Alors, je le disais en introduction, les associations et le monde culturel se sont donc rassemblés pour dénoncer les attaques régulières dont ils sont la cible. Quelles sont ces attaques ? Ce sont des attaques physiques ?
Alors, je ne sais pas exactement de quelles attaques il est question ici. On ne peut pas exclure effectivement qu'il y a des attaques physiques qui peuvent être portées par des représentants de l'extrême droite. Il y en a eu par le passé, notamment de la part de militants et de cadres du parti Nation, qui existe toujours aujourd'hui. Il y a eu des condamnations judiciaires d'ailleurs pour ces attaques. Il semblerait qu'il y en ait eu d'autres, physiques, mais aussi parfois plutôt verbales, symboliques également, qui aient été portées par d'autres représentants de partis d'extrême droite. Mais je ne dispose en tout cas pas de suffisamment d'éléments pour analyser plus en détail de quelles attaques ces mouvements et associations parlent.
Sans forcément avoir les détails de ces attaques, c'est le modus operandi de l'extrême droite, l'attaque.
Alors pas nécessairement, parce que ce qu'on observe depuis au moins une vingtaine d'années, c'est que ce sont des formations politiques qui tentent de se dédiaboliser, de se respectabiliser, autrement dit, d'apparaître comme étant un parti, sinon égaux aux autres, ça reste des partis anti-système, en tout cas tout aussi fréquentables. Leur ambition, c'est d'élargir toujours plus leur assiette électorale pour tenter de se rapprocher du pouvoir et d'exercer une influence directe sur les politiques publiques, c'est-à-dire de pouvoir les adopter eux-mêmes depuis un poste de pouvoir. Ils ont très bien compris que pour ce faire, ils devaient être plus nuancés, plus doux à travers leurs expressions, et effectivement, le répertoire d'actions violent semble beaucoup moins prisé par ces formations politiques, y compris à l'extrême droite. Ça ne veut pas dire que ce sont des formations qui, sur le plan démocratique, ne restent pas questionnables, pas directement sur le fondement même de la démocratie, je pense, mais sur toute une série d'aspects qui relèvent du pilier libéral de la démocratie. J'entends par là l'état de droit, l'équilibre des pouvoirs ou encore les droits accordés à toute une série de minorité. C'est beaucoup plus de ce côté-là, à mon sens, qu'il faut chercher lorsqu'on questionne les liens entre extrême droite et démocratie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas aujourd'hui encore des groupuscules d'extrême droite particulièrement violents. L'actualité française nous l'a encore démontré il n'y a pas très longtemps. Les services de sécurité et de renseignement restent attentifs au développement d'un extrémisme violent, y compris d'extrême droite en Belgique, francophone ou flamande d'ailleurs également. Donc, ça reste une réalité bien présente, mais les partis en tout cas qui ont de véritables ambitions électorales, eux, ont tendance à remiser au placard, je dirais, ce type de stratégie qui a pu être beaucoup plus utilisée par le passé.
Les associations dénoncent également le fait que les groupes d'extrême droite aillent dans les universités et même dans les écoles pour faire du recrutement, entre guillemets. Ça aussi, c'est en allant chez les plus jeunes qu'ils vont réussir à se dédiaboliser.
En tout cas, c'est quelque chose qu'on a pu observer particulièrement de la part du parti chez nous, qui a opéré une campagne de communication à travers des tractages sur les marchés, à travers des campagnes d'affichage dans les hautes écoles, dans les universités particulièrement. La volonté affichée, clairement, c'est d'aller recruter, y compris des plus jeunes qui se dotent aussi d'un bagage, notamment intellectuel, qui peuvent les intéresser dans le développement de ces organisations bien particulières, à nouveau à la veille d'une élection ou d'une année électorale cruciale. Et donc effectivement, c'est une stratégie qu'on peut observer, qui est beaucoup plus développée encore en Flandre. On sait qu'il y a des viviers véritablement dans lesquels le Vlaams Belang peut aller puiser, par exemple, pour recruter des collaborateurs parlementaires. C'est le cas au sein du KVHV, une organisation d'étudiants conservatrices catholiques en Flandre et dont un certain nombre de personnes entretiennent des liens avec l'extrême droite. Un des représentants du KVHV gantois ces dernières années était Dries Van Langenhove, le fondateur et leader du mouvement d'extrême droite, Schilden-Vrienden, pour ne prendre que cet exemple. Alors, on en est encore loin du côté francophone du pays. Néanmoins, on voit qu'il y a une volonté de l'extrême droite aussi de développer des réseaux dans le monde universitaire et académique.
Benjamin Viard, je rappelle que vous êtes politologue au CRISP. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Avec plaisir.